BFM Business partenaire.
BFM Stratégie avec Frédéric Simotel sur BFM Business.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session de BFM Stratégie. On va parler évidemment d'intelligence artificielle. C'est évidemment le sujet phare en ce moment. Mirage ou miracle, où en est-on vraiment? Voilà, on va essayer de comprendre un peu tout ce qui se passe parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses, hein, ces investissements à coût de centaines de milliards de dollars aux investissements dans les centres, dans les centres de données, Nvidia, OpenAI. Les acteurs de la tech rivalisent aussi de promesses autour de tout ça en disant que ça va permettre de gagner en productivité, de gagner en agilité. On va créer de nouveaux services. Mais justement, on se pose beaucoup de questions autour de tout ça. Et on va en parler. Est-ce que l'IA est vraiment un créateur de valeur? Sans doute oui, mais voilà, il faut chercher un peu, remuer un peu tout ça pour s'en sortir. C'est ce qu'on va essayer de faire dans cette session avec nous, Vinciane Beauchesne. Bonjour Vinciane.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, directrice associée au BCG. Et David Giblas. Bonjour David.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de Malakoff Humanis, président de Positive AI. On reviendra dessus lors de cette session. Et Malakoff Humanis, je rappelle, c'est un groupe de protection sociale paritaire mutualiste à but non lucratif, né en 2019, voilà, de la fusion entre Malakoff Médéric et Humanis. Vinciane, je vais démarrer avec vous. Les entreprises aujourd'hui, en termes de création de valeur avec l'IA, elles en sont où? Un peu dans le flou? Enfin, comment vous les jugez aujourd'hui?
C'est vrai que c'est assez difficile de s'y retrouver aujourd'hui sur le marché parce que c'est un marché qui est assez dominé par le discours marketing. Mmh. D'un côté, on a les tenants du grand remplacement qui vous expliquent que les agents vont résoudre l'ensemble de vos problèmes. Et on voit d'ailleurs les annonces autour des licenciements, on voit les chiffres de recrutement des jeunes développeurs aux US qui ont chuté. Et puis de l'autre côté, on a le discours de la bulle avec le rapport qu'on a tous lu pendant l'été, MIT, mm-hmm. 5% des entreprises
qui arrivent à créer de la valeur. Alors même si c'était sur un petit échantillon.
Un petit échantillon, il y a plein de choses à dire sur ce rapport. Ouais. Mais nous, du coup, pour essayer de naviguer au BCG, on a une enquête qu'on mène depuis 10 ans qui s'appelle Build for the Future, où on interroge 1250 grands dirigeants d'entreprises mm-hmm. pour savoir un peu où ils en sont. Le discours est un peu plus nuancé. Nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a 35% des entreprises, c'est 10 points de plus que l'an dernier, qui sont en train de passer à l'échelle.
On parle plutôt de grandes entreprises, hein, quand même.
On est, oui, plutôt sur des populations assez plus larges que la petite entreprise mm-hmm. que vous croisez chez votre boucher, mais qui sont quand même représentatives, je dirais, du panorama, mais qui ont les moyens d'investir mm-hmm. dans ces technologies. Donc 35% des entreprises qui sont en train de passer à l'échelle, 5% qui aujourd'hui sont ce qu'on appelle construites pour le futur. C'est une façon de dire que grosso modo elles sont déjà passées à l'échelle, elles ont déjà réussi à
les pionniers un peu.
Exactement. Les têtes chercheuses, elles ont réussi à implanter l'IA dans leur processus et en tirer de la valeur de façon pérenne. Et ça, on le retrouve déjà dans les chiffres. Ces entreprises-là, en moyenne, elles font 1,7 fois plus de revenus. La même chose en termes de profitabilité. Et chiffre qui me semble encore plus intéressant parce qu'elles construisent l'avenir, mm-hmm. elles sont 3,5 fois plus efficaces en termes d'innovation, en nombre de brevets posés. Donc on voit une vraie différence et quelques entreprises qui prennent la tangente, mais quand même derrière 35% qui sont sur le chemin.
Et qu'est-ce qu'elles font de différent par rapport aux autres pour justement arriver à ces gains, ces réductions de coûts, ces gains de productivité?
Je pense qu'il y a trois grandes choses. Une première, elles ont une approche vraiment stratégique de l'IA. L'IA n'est pas un objectif en tant que tel, c'est un moyen de répondre à des problématiques stratégiques qu'elles ont. Et donc, elles sont très, très claires sur quels sont les paris qu'elles vont prendre avec l'IA pour y mettre tous les moyens derrière. Parce que l'IA, ce n'est pas juste un déploiement d'outils, ça suppose une vraie transformation de bout en bout du modèle opérationnel, des processus. Et donc, pour ça, il faut choisir ses batailles. Le deuxième sujet, selon moi, c'est la question de la mesure. Et quand je dis mesure, c'est pas juste est-ce que j'ai de la productivité grâce à l'IA. On a quand même aujourd'hui 60% des entreprises, quand elles déploient l'outil, qui ne mesurent pas la valeur attendue derrière l'outil. Là, on est sur une question de mesure, non seulement de la productivité, mais aussi de la qualité, mais aussi de la satisfaction générée grâce à la solution IA, et puis également des risques qui vont avec. Pour réussir à apprendre, en fait, la mesure, c'est la façon d'apprendre en permanence en créant les bonnes boucles de feedback. Le dernier point, c'est elle ne s'arrête pas à l'adoption. J'ai beaucoup parlé d'adoption par le passé sur ce plateau. L'adoption, évidemment, c'est fantastique, c'est très important mm-hmm. et on sait ce que ça nécessite. Un vrai investissement en formation, l'activation du leadership, la lutte contre le shadow AI. Mais l'adoption, ça ne suffit pas. Il y a derrière une vraie réflexion à mener sur comment est-ce que je traduis cette adoption. Aujourd'hui, on a un salarié sur deux qui utilise l'IA de façon régulière. En valeur pour l'entreprise. Et ça, c'est un travail beaucoup plus profond qui est nécessaire, de refondre des processus et de repenser également les rôles de bout en bout, les métiers.
Alors justement, les réflexions, évidemment, l'IA est une priorité pour le groupe Malakoff-Ménéric-Humanis, David Giblas. Mais voilà, quelles sont les bonnes pratiques que vous avez identifiées aujourd'hui chez vous ?
Côté Malakoff-Humanis, on a investi dans l'IA depuis 7 ans environ. Donc, ce qui nous a permis aussi d'avoir du recul. Je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que l'IA, c'est avant tout un projet de transformation. Et très souvent, la plus grande complexité, c'est de traduire la performance d'un algorithme en performance pour l'entreprise. Donc, bien sûr, vous avez des sujets de nature technique, des sujets de nature data, des sujets de nature intégration. Mais le principal sujet le plus difficile à traiter, c'est la transformation des processus, la transformation des compétences, les nouvelles façons de travailler et le pilotage. Parce que, bien évidemment, le pilotage est essentiel pour s'assurer que la valeur générée est bien prévue. Tout ça pour dire que l'accompagnement doit être intégré le plus tôt possible et puis donc faire preuve d'une observation et d'un changement régulier pour s'assurer que le modèle de l'entreprise s'adapte bien donc à ce que l'algorithme permet de faire ou de ne pas faire pour ajuster donc le modèle de l'entreprise.
Mais parce que c'est ce qu'on dit, un 10% d'algorithme, 20% d'intégration, 70% de transformation, et j'imagine que c'est là-dessus où vous insistez beaucoup chez...
Oui, parce que le 70%, c'est quelque chose que intuitivement on ressent, mais derrière, est-ce que l'entreprise met les moyens et accepte aussi de prendre le temps de le faire, puisque en un algorithme qui fonctionne dans un bac à sable, et puis la réalité, se dire on va prendre plusieurs mois quand même pour s'assurer que les collaborateurs vont bien s'approprier ce nouvel outillage, que derrière les procédures vont évoluer, etc. Eh bien, tous les dirigeants en fait ne prennent pas cette décision à tort. Et pour tout vous dire, nous-mêmes on s'est planté sur le déploiement d'un algorithme parce que on avait sous-estimé cette phase importante de préparation et d'ajustement de l'organisation.
En plus, chez vous qui êtes un acteur, un groupe mutualiste avec une forte connotation sociale, j'imagine que tout ce qui est la transformation humaine, des métiers et tout ça, vous l'accompagnez de façon assez forte.
Oui, c'est essentiel parce que, comme vous en doutez, une entreprise comme le nôtre, dans laquelle on propose de déployer l'intelligence artificielle, forcément, ça suscite des questions, voire des résistances. Donc, très très tôt, on s'est dit pourquoi l'IA ? Et on a répondu à cette question en disant l'IA avant tout c'est pour l'humain et pas l'inverse. L'humain c'est pas pour l'IA. Tout ça pour dire que on était extrêmement vigilant, elle est toujours, pour ne pas servir donc nos collègues dans leur travail, pour faire en sorte qu'ils aient toujours cette liberté de penser, qu'il y ait un respect de leur vie privée. Oui. Et ça, ça donne un cadre de confiance au sein de l'entreprise.
Vous avez fait quoi ? Vous avez mis en place une sorte de cartographie des métiers, puis vous avez vu à chaque fois le poids de l'IA dans chacun des métiers.
Absolument.
C'est un peu
donc,
ça ?
On a conjointement créé un observatoire des métiers.
D'accord.
De l'IA avec les instances sociales. Tous les cas d'usage donc passent en CSE avant d'être déployés à l'échelle, donc pour être certain que toutes les parties prenantes sont favorables à ce déploiement. Et surtout, on a mis aussi en place des formations pour nos administrateurs, des formations pour les instances syndicales, pour être certain que tout le monde a bien compris quels étaient les enjeux derrière cette IA.
Et vous mesurez après si les gens l'utilisent bien, s'ils...
C'est fondamental de mesurer. Mesurer non seulement la valeur, mais également mesurer l'adoption ou la non-adoption de cette IA par les différents métiers. Et c'est quelque chose qu'on suit systématiquement parce que ça vous permet donc de pouvoir mesurer finalement où vous en êtes dans la courbe de déploiement à l'échelle dans l'entreprise. Donc, on a des indicateurs d'usage, des indicateurs de satisfaction qui nous permettent d'être certains que le cas d'usage est déployé à l'échelle.
Et puis, Vinciennes, il y a cette arrivée de la vague agentique qui arrive. On est déjà en train de mettre en place celle de l'IA générative, qu'on parle déjà de ces agents IA. L'humain, on estime aujourd'hui qu'on, dans les mois, les semaines, les années à venir, on pilotera à la fois des agents IA, à la fois des agents humains. C'est ça l'idée ?
Aujourd'hui, les agents, ça reste encore un monde un peu incertain. Oui. On a 77% des gens qui disent « les agents, ça va tout changer pour mon business ». Et après, quand on leur demande, on a qu'un tiers des gens qui voient vraiment ce qu'ils veulent dire par les agents.
D'accord.
Donc, ça fait beaucoup parler. Aujourd'hui, on est aux prémices.
Quand vous dites incertain, c'est dans la définition, parce que sinon, on y va.
C'est sûr qu'on y va.
Mais c'est de la façon
Mais pour l'instant, ça démarre et donc on ne sait pas encore bien quoi en attendre. Aujourd'hui, 13% des entreprises nous disent avoir commencé à intégrer les agents dans les processus. Donc il y a encore beaucoup à découvrir, je pense, et notamment sur l'interaction entre les humains et les agents et comment est-ce qu'on va faire cet équilibre-là. Jusqu'à maintenant, on avait un narratif qui était très clair, l'humain augmenté par l'IA. Avec les agents, on se retrouve avec des solutions techniques qui peuvent être autonomes, qui peuvent faire et pas juste vous dire quoi faire et qui apprennent avec le temps. Donc, c'est là où change un petit peu l'équilibre.
Ouais, c'est là où je dis qu'on va piloter à la fois des agents IA ou des agents humains.
Mais moi, je reste persuadée que le rôle de l'humain va être fondamental, déjà sur des questions de responsabilité, sur des questions d'éthique, sur des questions de capacité à naviguer dans l'incertitude. Mais il va falloir revoir un petit peu le discours et il va falloir revoir comment les organismes se préparent à cela. David l'évoquait, c'est les observatoires des métiers. C'est aussi créer un vrai muscle au sein de l'entreprise pour être capable de se poser la question de quelles sont les compétences purement humaines qui vont faire la différence dans mon entreprise demain et comment est-ce que je m'assure que je me dote de l'outil pour être capable de faire monter en compétences les gens dans ce sens-là et dans cette direction-là.
C'est vraiment ça, ce côté pilotage de la valeur. David, vous êtes président de l'association Positive AI, hein, en plus d'être directeur général délégué de Malakoff Humanis. Vous défendez la vision d'une IA responsable. Ça veut dire quoi exactement ?
Eh bien, le principal enjeu pour nous, c'était comment se doter d'outils pratiques pour être certain que l'IA que vous fabriquez est une IA donc de confiance et éthique. Pour faire ça, donc on s'est regroupé avec donc Orange, L'Oréal, BCG et Malakoff Humanis pour créer cette association en 2022. Donc l'objectif, c'est de proposer des outils. Donc on a un référentiel de 80 points de contrôle sur les 7 dimensions de l'IA de confiance autour de la robustesse, la transparence, la sécurité, par exemple. On a également des formations, on a également des webinaires, on a des ateliers qui permettent finalement aujourd'hui à une trentaine d'entreprises adhérentes de pouvoir partager des outils concrets et pratiques pour déployer des systèmes d'IA qui soient de confiance.
C'est créer un cadre, ce cadre de confiance dont vous parliez tout à l'heure.
C'est ça. Pour moi, c'est essentiel. Mm-hmm. Ce cadre de confiance, il faut non seulement le définir, mais également l'outiller en méthode et en solution qui vous permettent, pour tous les fabricants d'IA au sein de l'entreprise, d'avoir finalement des repères pour être certain que vous développez une IA qui reste sous contrôle et de confiance au service de l'humain.
Oui, puis vous le disiez tout à l'heure, intégrer l'IA dans le dialogue social, c'est essentiel.
C'est essentiel.
Eh bien, merci à tous les deux. Vinciane Beauchesne, directrice associée au BCG. David Giblas, directeur général délégué de Malakoff Humanis et donc président de Positive AI, donc cette association qui regroupe BCG, L'Oréal, Orange, qui vise à promouvoir justement une IA plus responsable dans tous les domaines auxquels cela peut correspondre. Merci à tous les deux. À très bientôt pour une nouvelle session de BFM Stratégie.
BFM Stratégie sur BFM Business.